à toutes et à tous. Bon, je suis très, très heureux de pouvoir intervenir ce soir auprès de vous. Avant mon intervention, je voulais vous dire deux choses. D'abord, je voulais rebondir sur ce qu'Anne-Marie a dit tout à l'heure, et en vous disant que nous considérons que la santé au travail, c'est quelque chose de très sérieux, parce que justement, ça touche le management et la stratégie de l'entreprise. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors, deuxièmement, on a beaucoup parlé des RH. Donc moi, je dois vous dire que j'ai une longue expérience de la fonction ressources humaines. J'ai su faire que ça dans ma vie. J'ai 36 ans de fonction ressources humaines, ou 35 ans, je ne sais plus. Et d'abord dans l'industrie. J'étais chez Creuse-Loire, hein, dans une entreprise qui s'appelait Tessine et qui faisait des biens d'équipement pour la sidérurgie. Et puis chez Spi-Batignol, dans le BTP. Et si je suis devenu secrétaire général, c'est pour l'unique raison qu'il y a un an, j'ai les cheveux blancs, hein, il a bien fallu que je choisisse mon successeur. Et donc on a convenu avec mon président que je prenais ce titre en essayant de continuer à aider, à donner un tout petit peu cette vision des ressources humaines. Qui ne sont pas simplement des outils, la paye, la formation, le recrutement, le licenciement, la relation avec les organisations syndicales, etc. Mais qui est aussi cette présence au cœur de la stratégie de l'entreprise qui permet d'impulser le changement et qui m'a permis d'avoir, et ça c'est la chance que j'ai eue dans l'entreprise, qui m'a permis d'avoir une vision large de cette fonction, incluant la qualité de sécurité environnement, la politique santé au travail, la communication, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire. Deuxième point ou troisième point, c'est clair que ce que l'on a fait dans ce domaine, dans la politique de santé au travail, dans le zéro accident, ça s'explique par deux choses. Ça s'explique par ce que l'on est, et ça s'explique par ce que l'on veut être, c'est-à-dire le projet que l'on a, la stratégie que l'on veut développer. Alors, je vais vous donner des documents un tout petit peu anciens, mais bon, ils ont qu'un an, je vous les commenterai et les actualiserai. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est un groupe de BTP, hein, de constructeurs. On est le quatrième ou cinquième groupe de constructeurs en France, très loin derrière les leaders mondiaux, d'ailleurs, de l'activité, que sont Bouygues, que sont Vinci, que sont Eiffage. On fait, alors ça c'était les chiffres de l'année dernière, on fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires, on est 8 200 personnes, on est essentiellement français, avec 110 implantations en France et quelques implantations en Europe, sur des métiers un peu spécifiques, très techniques chez nous, ce qu'on appelle des métiers très techniques, disons les fondations, les travaux souterrains. On est présent à ce titre-là en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Mais l'essentiel de notre activité, l'essentiel de nos équipes sont en France. Alors, on a une croissance très rapide, notamment depuis 2003, croissance interne et croissance externe. On a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires et doublé nos effectifs sur les 5 ou 6 dernières années. Et ceci s'explique par le slide qui est au tableau, parce que depuis 5 ans, en fait, nous sommes devenus indépendants. Nous étions, il y a 5 ans, la filiale construction d'un très grand groupe qui s'appelle le groupe SPI, qui était détenu par une société anglaise qui s'appelait EMEC. Et cette société, à un moment donné, a considéré que cette activité de construction locale, ne faisait pas partie de son cœur business. Et donc nous avons estimé, notre président et l'ensemble de l'équipe dirigeante, qu'il était intéressant, à travers le métier que l'on avait, et surtout le projet que l'on portait, que cette activité pouvait être poursuivie, développée, être pérenne. Et donc on a racheté l'entreprise, les cadres dirigeants ont racheté l'entreprise dans le cadre de LMBO, associé à un partenaire qui est Barclays Private Equity France. Et vous voyez aujourd'hui, dans le dernier état de notre organisation capitalistique, que cette entreprise, Spi-Batignol, elle est détenue
à 93% par ses cadres dirigeants et Barclays, et les 7% restants, ce sont les salariés. Donc, capital totalement verrouillé, une très grande synergie à ce niveau-là. Et caractéristique peut-être du LMBO, c'est que, deux caractéristiques, je dirais, c'est que dans la relation entre le financier et les dirigeants, vous voyez les poids respectifs. Donc, vraiment, c'est les dirigeants qui pilotent l'entreprise. Hein, on détient 80%, 80% des 93%. Hein. Et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, les dirigeants, c'est les 200 premiers cadres de l'entreprise. Ce n'est pas simplement un petit noyau d'une dizaine de membres d'un comité exécutif ou d'un conseil d'administration. Alors ça explique plusieurs choses. D'abord, la croissance rapide, parce qu'à partir du moment où vous avez l'indépendance stratégique, eh bien, vous affectez les moyens financiers ou les moyens ressources humaines aux actions que vous souhaitez faire. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, le deuxième point qui me paraît très très important, c'est qu'on a pu mettre en place complètement, totalement, le projet que l'on avait construit. Et je voudrais un petit peu insister sur ce projet parce qu'il explique beaucoup de choses sur la politique de santé au travail. Le projet qu'on a construit, c'est une nouvelle relation avec le client. C'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on appelle créer et partager de la valeur avec nos clients à travers une politique d'offre très particulière, très nouvelle dans le métier du BTP, qui était vraiment en rupture et qui reste en rupture par rapport à l'existant. Je vais être court, bref, mais quand même, il faut repositionner les choses. Vous connaissez bien ce monde de l'entreprise et ce monde du BTP. Quand un client, quand quelqu'un a un besoin, il s'adresse à un architecte qui lui réalise une esquisse, lequel architecte s'adresse à un bureau d'études, à une ingénierie qui lui définit les modalités de fonctionnement au sens large du terme de cette esquisse. Et une fois que le projet a été bien concocté, bien organisé, tout dessiné, bien on consulte un certain nombre de constructeurs, hein, les Bouygues, Eiffage, Henco, que sais-je, Batignolles, et on leur demande de répondre à un appel d'offres, à ce qu'on appelle un appel d'offres. Et là, généralement, alors je vais vite et je vais court pour être un peu pédagogique, hein, la seule réponse, la seule différenciation, c'est la réponse par le prix. Et j'ai coutume de dire que c'est le prix le plus bas, quelquefois souvent le plus bête, et qui est choisi. C'est très, très, très difficile, très structurant, très appauvrissant au niveau des compétences et des démarches d'entreprise. Et nous, on a mis en place une démarche totalement différente, qui est de dire, monsieur client, quand vous avez un besoin, réalisons-le ensemble, en partenaire, en transparence et en partenariat. Nous allons ensemble, avec votre architecte, avec votre ingénierie, définir la meilleure réponse aux besoins que vous avez. Si vous avez besoin d'une 307, ce n'est pas la peine de vous dessiner une Rolls que vous nous demanderez de réaliser au prix d'une 2 chevaux. Faisons ensemble une 307, que nous réaliserons au prix d'une 307, et qui correspondra parfaitement à votre besoin. C'est ça, créer de la valeur avec le client, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on répond parfaitement à son objectif, parfaitement à sa stratégie, parfaitement à ce qu'il veut être. Alors, bien entendu, c'est une réponse très très différente, parce que ça veut dire que la réponse sur l'appel d'offres, parce que ça veut dire qu'on est très en amont du projet, qu'on travaille, dans le cadre d'un groupe projet d'ailleurs, avec l'architecte, avec l'ingénierie, qu'on travaille en transparence complète, qu'on fait de l'analyse fonctionnelle. Si vous avez besoin de bureaux, c'est peut-être pas la peine d'en faire 5 000 mètres carrés, mais 2 000 mètres carrés peuvent suffire, etc., etc. Et on travaille en partenariat complet, en confiance complète, en coopération complète. Et on crée ainsi de la valeur avec lui. Parce que, bien entendu, c'est dans la phase amont du projet, quand il s'agit de le définir, de l'organiser, de le structurer, que les coûts sont les plus importants et qu'on peut faire des réductions de coûts les plus significatives. Ce n'est pas dans la phase réalisation. Alors, on va même jusqu'à dire, une fois qu'on a établi ensemble le projet, on vous définit le prix. Mais sur la table, vous pouvez même auditer les coûts, on vous dit le montant de nos frais généraux qu'on affecte à ce projet, et on vous dit très clairement la marge qu'on veut réaliser sur ce projet. Et puis on s'engage ensemble, on le réalise ensemble, et si même in fine ce projet coûte moins cher que ce que l'on avait prévu, eh bien on partage la différence. Donc ça va quand même très très loin dans la démarche de partenariat, de transparence, etc., de création de valeur. Et quand vous êtes dans ce type de démarche, vous touchez tout d'un coup fortement l'ensemble de l'organisation de l'entreprise, l'ensemble des compétences de l'entreprise. Vous ne pouvez plus raisonner de la même manière. Et il y a surtout quelque chose que vous ne pouvez plus faire, c'est quand vous dites que ma stratégie, ma volonté, mon projet, c'est de créer de la valeur. La première chose que vous vous dites immédiatement, comment je fais pour ne pas en détruire? Et quelle est la première valeur de l'entreprise, sinon les hommes qui la composent dans une entreprise de BTP? Il n'y a pas beaucoup de process, il y a surtout des hommes, de l'organisation, de la motivation, il n'y a pas tellement de process discriminants comme dans l'industrie. Dans l'industrie, il y a des process, il y en a peu dans le BTP. Comment ne pas détruire cette valeur première qui est la valeur des hommes de l'entreprise? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 30 ans de métier, je suis passé par des grands groupes, que ce soit groupe Creuse-Loire, que tel groupe Spilatignol. On a toujours eu des politiques notamment des politiques de sécurité, des politiques de réduction du taux de fréquence. Vous êtes du métier de la fonction RH, vous savez ce que c'est que le taux de fréquence, vous savez ce que c'est le taux de gravité. Dans ces grandes entreprises, on a toujours eu ce type de politique qui passait par de la formation, par une approche technique, par la mise en place de garde-corps, etc. Et cette politique, moi je me rappelle, je l'ai conduite, qu'est-ce qu'on faisait chaque année? Ben, on s'engageait sur des objectifs. On disait, on va réduire le taux de fréquence de 30 à 25, on va avoir pour objectif de le réduire de 25 à 12, etc., etc. Mais implicitement, qu'est-ce que l'on acceptait? Peut-être sans s'en rendre compte. On acceptait fondamentalement qu'on donnait l'autorisation à toute notre hiérarchie d'avoir un certain nombre d'accidents, d'avoir un certain nombre de morts, en toute impunité. Et c'était même écrit dans les objectifs. Ça nous est apparu, à ce moment-là, dans le projet que l'on vient d'écrire, ça nous est apparu totalement aberrant, totalement fou. Et donc, la première chose qu'on a dit, quand on dit qu'on veut créer la valeur avec le client, quand on veut le partager avec lui, la conséquence immédiate induite au cœur de la stratégie, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la stratégie, c'est de dire que la seule chose possible, estimable, que l'on met en place, c'est le zéro accident. Il ne peut pas y avoir d'autre politique que le zéro accident. Et quand vous changez brutalement de paradigme, quand vous n'êtes plus dans l'idée de dire on réduit le taux de fréquence, mais quand vous êtes dans l'idée de dire on ne peut plus tolérer l'accident dans l'entreprise, ça bouleverse les comportements. Ça bouleverse les organisations. Alors bien sûr, ça s'est accompagné par de la formation, ça s'est accompagné par une prise de conscience globale de l'ensemble du management de cette démarche, de ce projet, de cet engagement de la direction générale de l'entreprise, qui l'a affiché clair et net, c'est le zéro accident. Et moi je me rappelle quand on a commencé à dire il y a 6-7 ans dans l'entreprise, chez Spilbatignol, il n'y a qu'une seule politique possible, le zéro accident sur lequel on s'engage. J'ai eu le coup de téléphone de tous mes petits camarades qui m'ont dit deux choses. Ah, d'abord, écoute, on sait ce que tu vas faire, tu vas planquer les accidents, tu vas mettre les éléments, première chose, on sait ce que tu vas faire. Et deuxièmement, on m'a dit, mais t'es complètement cinglé. Parce que le premier accident que tu auras, ben, viendra en contradiction de ta politique. Résultat quand même, c'est qu'en 3 ans, on a diminué encore par 3 notre taux de fréquence. Et qu'aujourd'hui, on a des structures. Alors, ce que je vous dis du BTP, nous, on l'a découvert, mais c'était déjà pratiqué dans l'industrie. Hein. Je n'ai pas du tout l'intention je ne dis pas qu'on innove complètement. Pour le BTP, on a innové. Mais pour l'industrie, c'était déjà présent, notamment dans l'industrie pétrolière, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui des structures qui ont 100 à 200 ouvriers qui n'ont pas eu d'accident depuis 3-4 ans. Donc c'est possible, c'est totalement possible, le zéro accident sur le chantier. Faut-il encore l'affirmer, mettre en place des structures et puis y aller. Donc, cette politique, elle est vraiment... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une démarche éthique. Bien sûr qu'il y a de l'éthique derrière, mais ce n'est pas une démarche éthique. C'est une démarche qui est au cœur de notre projet. Et en ce sens, si vous voulez, elle lui est consubstantielle et elle n'a pas été difficile à mettre en œuvre dans l'entreprise parce qu'elle s'est implémentée... Enfin, difficile. Elle s'est implémentée en même temps que l'ensemble du projet. Alors... J'ai beaucoup parlé du zéro accident, mais ça a été le point de départ. C'était le point de départ de cette démarche. Alors bien sûr, après, on a capitalisé sur un certain nombre de démarches. Alors on aime bien les slogans, hein, vous voyez. qu'on considère un peu emblématique. Par exemple, les mineuses pubertales, c'est l'idée de dire, pour le zéro accident et pour la compétitivité de l'entreprise et pour sa productivité, c'est l'idée de dire, nous avons des compagnons, ils travaillent sur le chantier, ils ont des idées, et captons ces idées. Réunissons-les sur le lieu du travail, pendant le temps du travail, à l'occasion de la réalisation de l'ouvrage, des bureaux, des universités, des prisons, et dialoguons avec eux, ce chef de chantier qui les réunit, bien entendu sur la sécurité et la prévention, ce n'est pas évident, mais sur les modes opératoires, sur la logistique, etc. Et ça marche. Alors on sait des réunions hebdomadaires, alors je ne garantis pas que c'est des réunions hebdomadaires partout, mais ce que je sais, c'est que la première fois que j'en ai parlé, ils m'ont tous dit que j'étais royalement cinglé. Parce que c'était l'époque des 35 heures, c'était l'époque où on leur demandait bien entendu des plannings de plus en plus tendus, c'était l'époque où on leur demandait des résultats de plus en plus importants, il y avait encore ces problèmes de sécurité, ils m'ont dit comment on fait ? Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt moins de retard qu'avant, qu'on gagne plutôt plus d'argent et que les gens sont plutôt contents. Ça veut dire qu'on a transformé la productivité sur les chantiers en redonnant la parole aux collaborateurs, en leur permettant de s'exprimer. Nous, les cadres, on a envie d'être écoutés. Donc on oublie quelquefois que nos collaborateurs, ils ont envie aussi d'être entendus. Et en plus, ils ont des idées. Quand on leur donne la parole et quand on leur donne des idées, ça marche. Ça renforce la productivité. L'Académie Spibatignol, parce qu'on a pensé qu'on ne pourrait pas faire toute cette démarche de changement profond sans avoir un outil puissant de formation que l'on développe. Alors, le seul intérêt de l'Académie Spibatignol, c'est que ces 90% des formations sont assurées par les cadres de l'entreprise et pour développer le projet. Et puis l'Alliance, qui est la démarche un tout petit peu nouvelle qu'on essaye de mettre en place dès le recrutement et tout au long du suivi de carrière. L'Alliance, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est sur le plafond de la chapelle Sixtine, entre les anciens et les nouveaux, de quelle manière on peut nouer un lien presque contractuel qui permet aux anciens d'intégrer les nouveaux dans le projet et les suivre tout au long de l'entreprise. Alors, là, on en était là, on avait quelques progrès, on avait fait quelques progrès, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait continuer. Il fallait continuer et il fallait peut-être... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait probablement commencer à intégrer les problématiques de santé au travail. Pourquoi? Parce que, on a décidé de travailler jusqu'à 70 ans maintenant, c'est presque voté. Donc ça, c'était quand même une décision qui était pas encore décidée, mais qui était en mûrissement, comment dire. On voyait bien que les maladies professionnelles avaient des impacts majeurs sur les coûts des cotisations, et donc sur les biens des entreprises. Et puis, il y avait déjà le gouvernement qui s'était saisi du plan santé au travail. Donc, il y avait tout un ensemble qui était porteur, qui faisait que l'on pouvait intervenir. Et puis, nous, ce que l'on voulait, quand on se comparait par rapport à cet environnement, il était très clair qu'il fallait qu'on aille au-delà. Ça ne nous paraissait pas suffisant de ne plus blesser nos collaborateurs ou de ne plus les faire mourir. Il fallait faire en sorte qu'ils puissent continuer de travailler dans la meilleure santé possible. Il fallait qu'on soit très conscient qu'on pouvait réduire la pénibilité et que quand on parle de maîtrise de risque, ça en fait partie de la maîtrise des risques. Alors, je crois que moi, ce que je considère, mais c'est ma vision des choses, très subjective, la grande force de notre plan santé au travail et son originalité, qui Anne-Marie a fait allusion tout à l'heure, a été souvent contestée, c'est l'idée de dire, on n'est pas intelligent tout seul. C'est ça, déjà, la notion de partenaire. Quand je dis qu'on travaille avec le client, c'est parce qu'avec le client, on est plus intelligent que tout seul. Quand on travaille avec l'architecte, la maîtrise d'œuvre, le client, on est plus intelligent que si on travaille tout seul. Et bien nous, on s'est dit, si on travaille tout seul, on va complètement être à côté des choses. Et qui connaît mieux les problèmes de santé au travail que les médecins du travail? Pourquoi ne pas travailler en partenariat avec eux? Ça, je peux vous dire que même dans l'entreprise Pivatignol, c'était quand même une idée un peu nouvelle. mes chers collaborateurs, qu'ils soient ressources humaines d'un côté ou QSE de l'autre, ils avaient plutôt un contact un peu contraint avec les médecins du travail. Quant aux médecins du travail, ils étaient pleins de prévention, un peu, contre l'employeur, capitalisme, machin, chose, truc, mûche, etc. Je n'ai pas la peine de vous, j'ai pas la peine de vous raconter l'absence de dialogue. L'absence de dialogue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, est-ce que vous, les médecins du travail, vous êtes prêts à travailler avec nous sur, pour définir une espèce de plan santé au travail, une démarche de santé au travail dans l'entreprise? Et on leur a dit, et la première chose d'ailleurs sur laquelle on est prêt à le faire, puisque pour commencer, on va faire un état, une espèce d'état sanitaire de la situation. Où on en est dans ce Pibatignol? Quelle est la situation? C'est grave, c'est pas grave, dangereux, pas dangereux, etc. Où on en est? Est-ce que vous êtes prêts, vous les médecins du travail, à le réaliser, à répondre à ce questionnaire, à le préparer? Et il y a eu un enthousiasme extraordinaire. Le problème, c'est que quand on s'adresse aux gens, ils sont heureux de travailler avec vous. Le problème, c'est qu'on ne s'adresse pas à eux, quelquefois, on oublie. Il y a eu un enthousiasme. On a une soixantaine, 70 médecins du travail. On est répartis sur toute la France. Je vous dis, on a 110 implantations. Donc, on est en général dans des systèmes inter-entreprises. On n'a pas de médecins du travail attitrés. On n'a pas de centre assez gros, de chantier assez gros. Donc, on travaille avec une médecine du travail très décentralisée. Il y a une soixantaine, 70 médecins du travail. Il y en a plus de 35 ou 40 qui, dès le départ, ont accepté de participer à la démarche. Et on a commencé à faire une enquête. Et on a dit, cette enquête, on la publiera, on en parlera. Ce ne sera pas sur mon bureau ou sur celui de mon président. On en parlera, quel que soit le résultat de l'enquête. Et pour en parler, on a dit qu'il fallait qu'on crée un événement un tout petit peu charismatique, emblématique, enfin communicant. Et on a mis en place les premières assises de la santé au travail, chez Speed Batignol. Donc on a réuni à cette occasion une centaine de personnes. On avait 35 ou 40 médecins du travail, tous les QSE, un certain nombre d'hommes de RH, les opérationnels, patrons de chantier, des gens des services achats, bien entendu les membres des CHSCT, avec l'idée de dire comment fait-on ensemble pour essayer de mettre en place un certain nombre de mesures qui permettent à terme, toutes choses égales par ailleurs, du mieux-être au travail. Parce que ça nous paraît très très important. Et ça a été fantastique. Ouais. Moi, je vais vous dire, j'ai été fantastique. On avait défini 4 types d'actions. Partenariat avec les médecins du travail, ergonomie versus pénibilité, maîtrise des risques chimiques, on manie beaucoup de protéines, la peinture et puis d'autres, et puis tout ce qui concerne l'hygiène de vie au travail. Et j'avais bien organisé la réunion avec mon directeur qualité, sécurité, environnement et un peu un médecin du travail leader. Donc on avait dit, après une présentation un peu stratégique, pourquoi on est là, etc. On s'éclate en groupe de travail mixte, médecin-entreprise, autour de ces 4 thèmes. Vous travaillez pendant 2 heures, vous avez un bon déjeuner, on est quand même embêté, il ne faut pas l'oublier, il y a la vie aussi. Et puis à l'issue de cette réunion, on affiche au tableau toutes les idées que vous avez eues, et on s'était dit, juste après, on termine par la présentation du plan sécurité au travail. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous dit, on connaît 80% des idées qui vont être émises par les groupes, il y aura un consensus majeur, on va l'écrire dès le départ, comme ça on clôturera bien de manière rationnelle, efficace notre réunion, on était contents comme tout. Puis, à 2h de l'après-midi, impossible de faire ça. Pourquoi? Parce que les groupes de travail avaient vraiment fonctionné en groupe. Parce que les gens pour lesquels c'était la première fois qu'ils se rencontraient, ils avaient émis tout un tas d'idées absolument fantastiques. Et on s'est rendu compte qu'on était incapable sur le champ comme ça, de faire des tris, sauf à dénaturer tout le travail qui était fait. Alors on a pris acte. Et on a dit, c'est comme ça, on ne va pas aboutir au plan santé au travail que l'on avait envisagé. Par contre, est-ce que vous êtes d'accord, vous les médecins du travail, pour continuer sur ces quatre thèmes, à travers des groupes mixtes, copilotés dans l'entreprise, c'est rare quand même, copilotée par un médecin du travail et par un responsable qualité, sécurité, environnement, est-ce que vous êtes d'accord, dans le cadre d'un groupe mixte, de poursuivre ces travaux pendant un certain temps pour mieux les maturer, mieux distinguer ce qui est l'essentiel de l'accessoire et finalement présenter, mais dans un délai peut-être un petit peu plus éloigné, le véritable plan santé au travail de ce bâtiment. Et ils ont accepté. Et je vous assure qu'il faut bien se mettre à la place des gens. Les médecins du travail aujourd'hui, je connais bien parce que je suis membre du conseil d'administration d'une des principales associations de médecins du travail en France, qui s'appelle la CMS, qui a 350 médecins du travail temps plein. Il faut voir aujourd'hui que ces hommes et ces femmes, sont en train de vivre une révolution complète de leur métier. Une révolution complète de leur métier. On leur demande de plus en plus de s'intégrer dans les activités de l'entreprise, de faire moins de visites médicales, et ils ont un problème majeur de leur temps, du temps qu'ils ont à consacrer aux entreprises. Et donc, moi je participe au conseil d'administration à tout un tas de réunions, je vois bien de quelle manière ils sont attentifs à ne pas se laisser déborder par des actions qu'ils considéreraient comme ne faisant pas partie de leur quotidien et de leur business. Et quand je vois de quelle manière ces médecins, aussi soucieux, et à juste titre d'ailleurs, c'est pas une critique, hein, aussi soucieux de leur temps, ont accepté de venir passer mais des journées entières, parce que les groupes de travail, c'est très bien, c'est consensuel, mais c'est bouffeur de sang, hein, à travailler avec des membres de l'entreprise, des QSE, des responsables opérationnels pour essayer de monter ensemble un projet, ben, je dis, ça veut dire qu'ils sont vraiment très impliqués et très intéressés par la démarche, et que c'est bien, on va performer ensemble, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Alors, après, je ne sais plus ce que j'ai raconté, mais enfin, bon. Le problème, je vais vous le raconter à ma manière, parce que sinon, ça prendra trop de temps. Après ça, donc, on a eu les quatre groupes ont produit des propositions. On a refait deux ans après les deuxièmes assises de la santé au travail, 200 personnes. On est passé de 90 à plus de 250. On avait toute l'entreprise était là. Toute l'entreprise est là, notamment tous les opérationnels, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les organisations syndicales, etc. Donc c'était une 200-250 personnes, une entreprise de 8000 personnes, 1504. C'est une très grosse manifestation, hein, une très grosse manifestation de l'ensemble de l'entreprise. Et on a défini ensemble, deux types d'actions, des actions immédiates qu'on est en train de conduire. Et puis des actions qui nous paraissent un tout petit peu devoir être travaillées encore sur du moyen terme. Alors, le moyen terme pour moi c'est deux ans, hein, parce qu'on n'est pas très à l'aise par rapport à ces actions. Alors je vais en énumérer quelques-unes parce que ça répond à ce que monsieur Bouvet vous a dit tout à l'heure. Par exemple, sur les mesures immédiates, on crée des fiches de suivi santé. Ça nous pose d'ailleurs des problèmes parce que la législation, les tribunaux par rapport à ça. Donc, on a décidé de créer des fiches de suivi santé parce qu'il faut bien assurer la traçabilité des opérations. Pour répondre aux problèmes de chimiques. Individuels par salarié, hein, où on va remettre sur chacune de ces fiches toutes les informations relatives au salarié. Ça va être géré par le médecin du travail, on nous a fait
un peu. Donc le dossier
reste confidentiel. Reste confidentiel, mais si le salarié souhaite qu'il lui soit communiqué, etc.
Oui, oui.
Et puis ça peut poser des problèmes parce qu'on voudrait essayer de mettre sur ces fiches de santé les temps d'exposition éventuels à des travaux à risque, etc. Ça pose de sérieux problèmes vis-à-vis des risques que l'on pourrait prendre demain si on était poursuivi par les tribunaux. Enfin, c'est pas très simple quand même. Une fois l'idée émise, et après il faut la mettre en place. Hein. Le document unique de sécurité, on va l'étendre à la santé au travail. Dans toutes nos filiales, il y a désormais un plan annuel de santé au travail qui est mis en place avec la hiérarchie de la filiale, le CHSCT, le médecin du travail. Et ce que l'on veut à terme, c'est que le médecin du travail audite ce plan sécurité pour qu'ils nous disent, ben oui, vous avez ce plan santé, oui, vous avez bien progressé, non, vous avez, il y a des progrès à réaliser. On travaille bien entendu sur les équipements des véhicules pour faire en sorte, on a beaucoup de véhicules, hein, on a une activité de BTP, on a beaucoup de véhicules, donc on est tous en train de les équiper en régulateurs, en limitateur de vitesse, en climatiseur pour que les gens conduisent dans des conditions correctes, etc., etc. On est en train de mettre en place sur tous nos chantiers, à travers les minutes Spi Batignolles, des actions de lutter contre les addictions, pour toutes les addictions. Hein. Et on a pris une mesure emblématique, on a dit zéro alcool dans l'entreprise. Alors, je peux vous dire que ça touche. Zéro alcool dans l'entreprise. Donc tous les pots de départ à l'eau. Alors, il y a deux sortes d'eau, hein, il y a l'eau plate et l'eau minérale, hein, au jus de fruits, etc., y compris au siège, bien entendu, on a commencé d'ailleurs par le siège. Voilà. C'est quand vous arrivez, ça aussi, c'est d'abord, l'alcoolisme reste un problème. Point numéro un. Puis deuxièmement, quand vous arrivez à faire en sorte que l'entreprise soit capable d'entendre ce type de discours, c'est quand même, ça donne des effets pédagogiques très puissants. Alors, les actions sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont pas encore enclenchées, parce qu'il y a des décisions à prendre, on a beaucoup de choses à faire sur les conditions de travail. Alors, pour diminuer la pénibilité, on avait beaucoup travaillé, vous avez certainement entendu parler des TMF, hein, les troubles musculo-squelettiques, hein, et donc dans une de nos filiales en région parisienne, on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là, en liaison avec la CRAM, notamment, la CRAM de l'Île-de-France, hein, et on avait abouti à des résultats. Et comme par hasard, cette expérience intéressante, performante, elle n'avait pas diffusé dans le reste de l'entreprise parce que on ne sait pas bien pourquoi. Mais en tout cas, elle n'avait pas diffusé dans le reste. Donc toute l'action que l'on est en train d'essayer de conduire dans le reste de l'entreprise, c'est comment à partir de ce type d'expérience, chaque filiale, chaque chantier peut se l'approprier et la mettre en place parce que c'est de ce type de démarche qu'à terme. On va aboutir à des améliorations notables. Deuxième point qu'on est, on est un peu à découvert compte tenu de l'évolution de la situation. L'idée c'est de dire, est-ce qu'on peut prendre l'engagement de maintenir tous nos salariés jusqu'à l'âge légal de la retraite ? Il faut être clair, jusqu'à une époque récente, on a utilisé toutes les possibilités légales et les artifices qu'on a su mettre en place pour faire partir nos collaborateurs relativement tôt. Hein. On n'est pas meilleur que le reste des entreprises françaises. Hein. On est tout à fait dans la bonne moyenne sur ce sujet-là. Et notamment nos compagnons ouvriers. C'est quand même un peu compliqué parce que leur métier en soi, il est un petit peu difficile parce qu'ils le font, hein, ils le font à l'air, comme tu veux, etc. C'est pas peut-être le métier lui-même qui est difficile, c'est les conditions dans lesquelles ce métier se fait. Donc l'idée, c'est de se dire, comment peut-on faire en sorte de travailler ensemble avec les ressources humaines, en faisant évoluer les compétences, en cadre de métier nouveau, comment peut-on faire en sorte, est-ce qu'on peut prendre l'engagement à terme de maintenir tous nos collaborateurs jusqu'à l'âge légal d'armes? Je ne sais plus bien à quel âge maintenant. À l'époque, c'était pas 70 ans. On n'en était pas là. Alors, bien sûr, comme on est très heureux du partenariat avec les médecins du travail, il faut qu'on le renforce, il faut qu'on l'intensifie, il faut qu'on le rende encore plus productif. On a presque la moitié des médecins du travail qui sont concernés. Il faut que l'autre moitié des médecins du travail le soit aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelques médecins du travail sur deux qui fonctionnent. Il faut qu'on les convainque que c'est efficace, que ça ne remet pas, parce que c'est pas notre but, que ça ne remet pas en cause ni leur fonction, ni leur responsabilité, ni leur manière de fonctionner vis-à-vis de nous. On va pas aller sur leur plate-bande, on va pas essayer de s'immiscer dans le secret médical, etc. C'est pas du tout notre but. Notre but, c'est comment, ensemble, tenant compte chacun des uns des autres de nos perspectives, de nos besoins, de nos objectifs, on peut collaborer et fonctionner. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc on veut beaucoup travailler. Alors sur la sécurité routière, on a des débats sans nombre sur le problème du téléphone en voiture. Parce qu'il est inutile de vous dire que tout le monde chez nous téléphone en voiture, bien évidemment. Enfin, vous entendez avec un téléphone sans fil, machin, on a quitté les voitures. Donc on a des débats sans fin sur le problème du téléphone de voiture. Et comme on ne sait pas se sortir de ce débat, on a dit que le meilleur des choses, c'était de supprimer les déplacements. On réduire les déplacements. Je trouve que là, on n'est pas. On a un vrai sujet. Est-ce que, oui ou non, on interdit à nos collaborateurs de téléphoner en voiture ? Vrai sujet, parce que il y a nos chantiers sont dispersés. Les conducteurs de travaux vont d'un chantier à un autre. La tradition veut que dès qu'ils soient dans leur voiture, ils prennent leur téléphone, ils appellent le siège, le machin, leurs clients, etc. Et là, vous avez deux solutions. Alors, c'est pareil au niveau de la direction générale, etc. Hein. Tout le monde téléphone en voiture. Il y a deux solutions. La solution qui devrait être la vraie, c'est-à-dire on interdit le téléphone. On interdit de téléphoner et donc on supprime toute possibilité de mettre en place des systèmes mal libres. On ne va pas derrière les voitures, les systèmes mal libres. Et jusqu'à maintenant, on se disait qu'est-ce que font ceux qui continuent à téléphoner, qui prennent plus de risques et d'accidents. Ou vous avez la deuxième possibilité, vous dites on continue de tolérer en mettant en place les systèmes mal libres. On n'a pas tout à fait fini le débat là, parce que ça devient presque un débat culturel chez nous sur ce sujet. Et puis dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est comment on envisage le stress au travail. Comment on envisage le stress au travail, en étant quand même bien clair que pour nous, on considère que c'est le surstress au travail qu'il faut éradiquer, et qu'il y a un stress légitime, normal, efficace et productif. On a tous connu, c'est quand c'est une gamin, c'est la vie normale, quoi. Hein. Et comment on peut identifier et éliminer le surstress. Voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, encore une fois, tous les thèmes que j'ai évoqués, c'est des thèmes banals. Je ne sais pas si on dit banaux. On dit banal, alors j'ai juste. C'est des thèmes banals et classiques qu'on retrouve dans toutes les entreprises qui sont dans des démarches de santé au travail. La seule originalité qu'on a, mais je pense qu'elle est majeure quand même, c'est la manière de conduire l'opération dans ce partenariat avec les médecins. Voilà ce que j'avais envie de vous dire.
Merci. On va rester parce que je crois qu'il va y avoir plein de questions.
ou des questions ou des fléchettes, c'est le choix. Ça peut me mettre les deux. Non. 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 Alors, non pour plusieurs raisons. Alors, point numéro un, d'abord, quand vous réduisez les accidents de travail, vous avez des économies majeures. On est à un taux. Toutes nos entreprises sont un peu personnalisées. Donc, quand elles réduisent les accidents de travail, les taux de fréquence baissent, les taux de sécurité. Les cotisations sécurité sociale baissent, donc tout ça c'est vital. Deuxièmement, sur la santé au travail, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous êtes sur du long terme, parce que on a un vrai sujet, c'est quels sont les indicateurs que l'on peut mettre en place pour évaluer la pertinence des actions que l'on conduit. C'est psychométrique, quoi. C'est irrationnel. C'est que les maladies professionnelles, ça coûte de plus en plus cher. Les invalidités, ça coûte de plus en plus cher. Et que si on les réduit, à mon avis, à terme, on ne peut pas s'en rendre compte. Alors, je fais une analyse différente. Je ne suis pas sûr qu'elle convainque mon président, quelquefois. C'est de lui dire il ne s'est pas convaincu d'ailleurs. Depuis qu'on est dans cette politique, on a plutôt gagné de l'argent qu'on en a perdu. On en perdait plutôt avant, on n'en perd pas maintenant. C'est pas simplement cette politique. Je ne suis pas sûr que ça coûte très cher. Moi, on a, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a comme coût supplémentaire ? Les coûts supplémentaires qu'on pourrait avoir, c'est de dire qu'on a plus de personnes qui sont concentrés sur ce type d'opération, ce qu'on appelle chez nous les QSE, les hommes qualité, sécurité, environnement. Je n'ai pas le sentiment qu'on en ait plus qu'avant.
leur activité s'est plutôt diversifiée. Elle est passée plutôt, ils étaient très techniques, comme le disait M. Bouvet tout à l'heure, ils étaient très techniques. Ils sont passés plutôt vers des activités au sens large du terme de managériale, d'approche comportementale et autres. Je n'ai pas le sentiment qu'on en ait beaucoup augmenté le nombre. Quand les minutes chantier, je vous assure que ça coûte rien. Je suis totalement, là, je suis totalement persuadé que ça coûte rien parce qu'on a vu de quelle manière on a augmenté la productivité des équipes. À partir du moment entre l'efficacité de quelqu'un à qui on dit fais ci, fais ça, puis fais ci, fais ça, etc., sans comprendre, et l'efficacité à qui on lui dit bah, écoute, de quelle manière on pourrait prendre le problème et on pourrait s'améliorer, il n'y a rien à voir hein, en termes de. Et on n'a rien inventé, hein, c'est, on a ressuscité les cercles de qualité il y a 20 ans, etc. etc. Hein, on n'a rien inventé. Hein. Mais je suis sûr que ça coûte. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça coûte fraîche. Et en tout cas, je suis totalement persuadé que l'équilibre entre le coût et les économies ou l'amélioration de la productivité qui en résulte, il n'y a pas trop de. Mais on est dans des métiers du BTP avec des gens très pragmatiques. Hein. Un sou, c'est un sou. Les conducteurs de travaux, ils sont très attentifs aux résultats de leur chantier. On n'est pas dans. Et puis, on a des. Comment dire, c'est immédiat. C'est pas des. C'est pas. Le résultat du chantier, c'est bout de 6 mois.
Il y a une incidence sur la fiabilité du matériel.
Oui.
On
a vu. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand vous conduisez ce type de politique, il y a des préalables. Il est bien évident qu'il faut que les gens aient des matériels compatibles, qu'on ne va pas faire du bricolage, qu'il y a des garde-corps, qu'il y a toute une politique de matériel et de sécurité passive qui a été mise en place au préalable. Mais de toute façon, c'est obligatoire. Donc tout le monde les a, ces coûts. Hein. Et ensuite, je pense que moi, ce que je crois vraiment, et ça s'est remonté par les études qu'on a fait, quelques petites études d'enquête en interne, c'est qu'il y a une perception des collaborateurs très très positive sur ce type de démarche. Et là, il y a un engouement. On a mis en place un accord d'intéressement au niveau du groupe. L'accord d'intéressement, on l'a bâti sur deux critères, les résultats financiers et les résultats de sécurité. Unanime, même la CGT a signé sur ce sujet-là. Donc moi je ne crois pas, et j'ai jamais vu dans ma vie professionnelle qu'il y ait un réel dilemme entre le coût d'une politique de sécurité et qu'on ne puisse pas faire une politique de sécurité parce que ça coûte. Je pense sincèrement, en tout cas dans nos entreprises, que c'est un faux problème. Comme je pense, hein. C'est peut-être tort, hein. C'est pas personne sur le sujet.
Quand vous dites zéro accident depuis 3 ans, c'est accident.
Zéro accident avec arrêt.
Avec arrêt.
Zéro accident avec arrêt.
Parce que vous avez quand même.
Non. Zéro accident avec arrêt.
D'accord.
Zéro accident.
Ça m'assure, parce que vous me dites.
Non, zéro. Oui. Eh bien écoutez, attendez, je vais vous dire. C'est zéro accident avec arrêt. On fait toutes les années des prix sécurité, il faut donner un petit peu de. Bon, il faut challenger les équipes. Depuis 2-3 ans, ne peuvent concourir, et il arrive en finale, que bien entendu des structures qui n'ont pas eu d'accident, au moins dans l'année considérée. Et je regarde quelquefois les résultats, les plus performants. Ils ont zéro accident avec arrêt. Ils ont zéro accident sans arrêt et ils ont zéro accident d'intérimaire. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on est comme dans toutes les entreprises, le risque couru par nos intérimaires est 3 fois ou 4 fois plus important que le risque couru par nos propres salariés.
Vous me donnez là une bonne idée, parce qu'on a un prix universitaire, il faudrait peut-être qu'on ne le donne qu'à des étudiants d'université qui ont zéro accident. Je ne sais pas les sexes si vous êtes bons là.
Pour
ouais. Non, mais attendez, c'est une vraie question.
Non, voilà.
C'est une vraie question. Bon, si c'est comme ça, on peut la porte, il me fait. Non, ça n'a pas été perçu comme ça dans l'entreprise. Non, mais vous avez raison de poser la question, c'est le risque qui pourrait exister. C'est quand même, vous savez, très difficile. Mine de rien, c'est très difficile de planquer les autres. C'est très, très difficile. Nous, quand on a un accident sur chantier, hein, on n'a pas le système de l'industrie où vous avez quelquefois une infirmerie sur place. Vous dites aux salariés qu'il va passer sur le registre de l'infirmerie. Bon, c'est rien, c'est un petit peu beau, on te donne un poste allégé, puis si ça va plus mal, que tu es inscrit sur le registre de l'infirmerie, il n'y a pas de problème. On n'a pas ce système. Nous, quand on a.
Mais pas de.
Ben non.
De
registre. Ben non, on va à l'hôpital. Et on donne. Alors, en fait, alors, ce qui est vrai, c'est que, effectivement, les gens ont une filière qui peuvent continuer à travailler, mais c'est le médecin qui donne, qui dit l'autorisation. Il dit, vous pouvez continuer à travailler ou je l'arrête. Hein. C'est pas nous. Hein. Non. On n'a pas le registre.
Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ma démarche sera, à votre avis, étendue à aux autres constructeurs, en l'occurrence?
Alors, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans le BTP, il n'y a pas une seule entreprise, notamment les grandes, qui ose dire autre chose que zéro accident. Ça, c'est clair. Non, mais c'est très bien, je suis très content. Hein. On est très content, nous. Hein. Aujourd'hui, vous entendrez les fédérations du BTP, les grandes fédérations, les grands groupes, ils ont tous la politique du zéro accident. C'est très bien. Mais je suis totalement persuadé qu'on peut progresser, et puis si on a servi un peu de... Si on a un peu servi de levain dans la pâte, tant mieux.
J'ai une autre question par rapport à la fille de santé tout à l'heure.
Oui.
Vous vous demandez, parce que vous me laissez des os, et puis justement, depuis l'an dernier, les filles d'exposition
au risque.
Et
alors
en fonction des postes de travail.
Et vous dites, monsieur X, c'est...
Non,
comment vous dites parce que moi, ça m'intéresse, parce que là, j'ai un vrai débat avec les juristes sur ce sujet-là. Moi non plus. Mais moi non plus. Et mes équipes de QSE non plus.
Par contre, le souci qui est remonté par les salariés, c'est bah oui, je signe, mais d'accord, mais enfin, j'étais en contact avec de l'amiante il y a 20 ans. Si je signe ça, ça veut dire que ça met en cause tout ce que j'ai fait avant. Donc le principe, c'est moi je le date à la date de la visite médicale et la fiche. Ou à partir de ce moment-là, elle n'est pas du tout rétroactive. Et quand il y a des modifications de produits, de composants, enfin, quelle que soit la modification, il y a une mise à jour et on la ressort systématiquement.
Et vous êtes beaucoup plus en avance que nous sur ce sujet. Oui.
Je reformule la question parce qu'effectivement, là, on est sur un point de détail. Et pour garder, capter quand même l'intérêt du plus grand nombre, si vous pouvez nous expliquer en amont l'objectif de ce type d'outil. Voilà. Pour qu'on comprenne après la problématique que ça pose.
C'est un petit peu pour le lien social, c'est pour rassurer le salarié sur les justement
sociaux de leur santé.
Voilà, exactement. Pour se protéger aussi, parce que des maladies professionnelles qui pourraient se trancher par la suite. C'est vraiment un intérêt aussi bien pour l'employeur que pour le salarié.
Mais sans contrainte juridique.
Je n'ai pas entendu parler, alors peut-être que, mais a priori, il n'y en a pas. C'est plus par intérêt du salarié.
Potentiellement, il y a quand même globalement, puisque les classifications des produits et des produits dangereux évoluent. Et donc, ce qui aujourd'hui n'est pas un risque, ou qui est considéré comme un produit non toxique, j'ai un banal ou autre, demain, les choses peuvent être toutes différentes. Et dans ces cas-là, la responsabilité de l'entreprise, par exposition, en plus signée, attestée et autres de ses salariés, c'est l'une des grandes raisons, c'est l'un des grands débats qu'il y a dans toutes les manipulations globalement de produits. Mais je ne sais pas dans quel type d'activité vous êtes, mais ça va jusqu'à, par exemple, les choses qu'on a découvert, c'est que vous avez une teinturerie globalement en bas de chez vous, et la manipulation des produits de teinturerie est extrêmement, il faut faire extrêmement attention. Et il y a eu tout un truc à un moment, on avait d'ailleurs nous aussi pour là-dessus, c'est les teintureries sont-elles des ICPE, sont-elles globalement des établissements dangereux, et de facto, oui. Et ça, globalement, les avancées permettent de dire que, bon, pour l'instant tout va bien, mais dans deux ans ou dans trois ans, on découvre quelque chose, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je voudrais simplement répondre, mais rapide. Simplement, moi, je suis totalement d'accord avec vous sur l'intérêt d'avoir ce document qui permet d'avoir un suivi, qui permet d'adapter la prévention et l'organisation. Bon, ça paraissait, et dans les groupes de travail qu'on a eu, médecins, PSE, il y avait une espèce d'unanimité sur ce sujet-là. Alors, on ne l'a pas encore mis en place, mais il y avait une unanimité. La réaction de mes juristes, mais on va trouver des solutions, c'est la vie, c'est de dire attention, parce que aujourd'hui, on est pratiquement en matière d'accident du travail, de santé du travail, dans une responsabilité, non pas de moyens, mais de résultats de la part de l'employeur. Dès que l'employeur peut être mis en cause, c'est sa faute, c'est sa responsabilité totale, etc. Et les juristes nous disent que les seules fois où ils ont pu éviter la mise en cause de la responsabilité de l'employeur, c'est quand justement les salariés n'ont pas pu prouver qu'ils avaient été exposés à un risque, etc.
Et c'est justement moi ce que je dis aux salariés, parce que c'était vraiment l'inquiétude des salariés quand ils
viennent au
tout début. Ouais, bah, je signe ça, mais c'est pour me planter.
Non, au contraire, à la limite, ça lui donne entre guillemets des armes.
Voilà, exactement.
Et donc nous, on essaye de voir de quelle manière on peut continuer dans cette idée, parce que je considère que c'est effectivement une bonne idée, une bonne pratique, en évitant ce risque quand même, parce que tu ne peux pas engager l'entreprise dans un risque majeur.
On va même plus loin, parce qu'on fait même des formations pour la question, mais je suis dans une société qui fabrique de la peinture.
On l'utilise après.
On va même plus loin, c'est qu'étant donné qu'il y a des produits qui sont dangereux, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des formations pour le personnel qui utilise ces produits dangereux. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est... le formaldéhyde, ça peut être il peut y avoir des risques cancérigènes. Et les salariés qui vont être en contact avec ce produit ne peuvent être en contact qu'après avoir eu une formation du médecin du travail et une formation de la part de l'employeur. Et il signe comme quoi il a eu le médecin du travail ne veut pas dire qu'il fait une formation, elle fait une information. Et nous, on fait la formation. Chacun détaille de son côté, on sensibilise les gens à la dangerosité de leur métier.
Potentiel des produits et des manipulations de produits.
Et ça, finalement, au début, c'était très mal perçu par les salariés, mais en les voyant individuellement, on arrive à. Bon, il y a des anciens qui sont récalcitrants et qui ont du mal à dire mais ce que j'ai fait avant, je risquais vraiment ma vie. Aujourd'hui.
Il y a des phénomènes de génération qui sont très importants.
Oui. Franchement, moi je me dis, c'est impressionnant parce que c'est vrai que les produits sont quand même. On a eu des formations même en tant qu'administratif, je me dis, mais on touche des produits ménagers, on risque notre vie aussi. Et les jeunes qui arrivent, hop, ils sont là pour travailler, ils ne se posent pas de questions. Que les anciens plus.
Pour rebondir sur cette question de motivation, est-ce que vous avez parlé d'un intéressement qui intégrait ces problématiques santé ou santé sécurité, vous avez parlé aussi de challenge, etc. Est-ce que vous avez développé d'autres.
Par exemple, on a des systèmes de rémunération annuelle variable pour les cadres, pour les cadres dirigeants et les principaux pratiquement tous les cadres aujourd'hui, systématiquement un des critères est le critère sécurité. Les cadres. Ouais, c'est
ça. Question générale, quels moyens d'information et de communication utilisez-vous principalement pour informer tous les niveaux, la prévention, les accidents qui sont pointés, un registre, un engagement juridique pour part de l'autre?
Alors, qu'est-ce qu'on a en place alors? D'abord, on a mis en place une formation à l'Académie Spilett-Mignol, 2 jours. Oui, mais ça participe beaucoup de l'information.
Et l'information quotidienne, par affichage, par...
Bon, chacun fait comme il veut. Chaque filiale fait comme elle veut. Mais peut-être que ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais je voudrais insister sur la formation parce que jusqu'à maintenant, traditionnellement, c'était plutôt la hiérarchie qu'on formait. Et on a formé la totalité de nos ouvriers, de la même manière, avec la même forme, exactement la même formation que la hiérarchie, exactement la même, y compris juridique, 2 jours de suite, ce qui veut dire que vous avez entendu parler quand même de l'état de tension du marché du BTP ces dernières années, il y avait quand même un peu de surchauffe, et bien on n'a pas hésité à envoyer chaque année, on a fait ça sur 3 ans, de l'ordre de 2000 à 2500 ouvriers en formation pendant 2 ans. Et la même formation que les cadres. Ça, je vous assure que ça participe beaucoup à la formation. Alors, il y a ça, il y a les panneaux qui sont sur chantier, mais je dirais que c'est le risque, c'est la décision de chacun. Puis, les minutes spilett-mignol, ils en parlent dans les minutes spilett-mignol des résultats de sécurité, des accidents. On n'a pas un outil central, structuré de la formation. Par contre, comme une partie de l'intéressement est basée sur là-dessus, on est bien amené à publier des résultats, à les expliquer, à les commenter, voir à ce qu'ils sont audités, etc. C'est un concret. On le fait aussi dans le journal d'entreprise qui paraît tous les 2 mois.
Bien.
Mais c'est jamais gagné d'avance. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation plus difficile, on est sorti. Il faut continuer. Hein. C'est un sujet sur lequel il faut garder la pression en permanence.
Bon, je crois qu'on va vous dire si.
Oui, on va devoir conclure ces échanges qu'on peut poursuivre autour d'un
heure
pendant. Et on a promis 2 minutes d'interpellation à Marie.
Oui, j'ai besoin de vous 2 minutes.
Un grand merci de cet échange en tout cas.
Nous, on a besoin de vous 2 minutes, même pas. Pour 3 choses. On a lancé l'an dernier, première édition au mois d'août, un prix qui est le prix Master RH, IAS, Association INF, autour justement de toutes ces préoccupations, santé, qualité de vie, sécurité, qualité de conditions de travail. Donc si chez vous, le prix, la première remise a été faite donc, le 28 août dernier à l'université d'été de l'IAS, il y a un nouvel appel qui est en cours en ce moment d'ici juin prochain. Donc si vous avez chez vous étudiants, stagiaires, en master ou autres qui sont intéressés par ça, on aimerait bien les avoir parce que oui, on a un prix qui est plus traditionnellement ouvert à des disciplines scientifiques. Mais pardon de dire que vous êtes les apôtres du MOOC, parce que nous aussi. Mais sur les disciplines molles que maintenant on qualifie de souples, que sont les RH, on aimerait bien avoir. Donc voilà, ça c'est. Il faut dire que je garde les ingénieurs quand ils parlent de vous, ils parlent du MOOC, des ingénieurs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on voudrait aussi, et là c'est presque au titre de l'ESSEC, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à partir de dorénavant, qui devrait théoriquement être cette rentrée-ci universitaire, ou en tout cas la prochaine, toute formation supérieure qui, quelque part, doit former de futurs cadres, du futur manager, quel qu'il soit, devra intégrer, je ne parle pas du tout des spécialistes de santé, sécurité au travail, hein, mais devra intégrer dans ses cursus des modules de formation pour sensibiliser donc ceux qui sont les cadres, les responsables de demain aux questions de santé, sécurité, qualité de vie au travail et notamment de stress et autres. Donc ça, voilà, ça c'est globalement à savoir là-dessus. Mais il y a une chose qui manque, il y a une cruellement, qui a commencé à être ébauché, à la fois par l'INRS et par la mission DAP du nom du titulaire de la chaire hygiène et santé au CNAM, qui est un référentiel de compétences incluant ces dimensions-là. Pas pour les spécialistes qu'il a, il y en a globalement des référentiels de compétences managériales qui existent pour les spécialistes, mais que doit-on inclure là-dedans? Et donc ça, pareil, appel, si aussi bien côté SEC que côté de vos entreprises, certains d'entre vous pouvaient seraient intéressés à travailler ça, on serait bien intéressés à l'avoir, parce que vraiment là, l'idée là, c'est d'avoir un vrai regard de RH, je dirais, de non-spécialistes, quitte à écouter hein, des choses un peu à spécialiser là-dedans, pour regarder quels sont les prérequis, les compétences. Il y a un tout petit truc qui est une petite base qui existe, mais qui a vraiment besoin d'être travaillé. Et là, on aimerait vraiment beaucoup pouvoir le faire avec vous. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être nous laisser des coordonnées.
Ah oui, pour qu'on puisse. Alors, les coordonnées, on va vous les laisser là. Et puis, si vous avez envie de recevoir la bonne parole d'association INF, qui est derrière une.